Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le 330e numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sommes toujours en période de vacances scolaires, mais l'agenda des concerts reste bien rempli, comme vous allez pouvoir le constater. D'ici notre prochain numéro, vont avoir lieu un concert de l'Orchestre National du Capitole le jeudi 30 octobre, deux concerts du Toulouse Wind Orchestra les jeudis 30 et vendredi 31 octobre, et un concert du cycle des grands interprètes lundi 3 novembre avec le Tokyo Philharmonic Orchestra et le violoniste Maxime Vengerov, sans oublier deux concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse avec la violoniste Lina Turbonnette les lundi 3 et mardi 4 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Pour en parler, nous accueillons l'altiste Carlos Vizcaíno, administrateur et musicien de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Également présent à nos côtés, l'ami Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est avec Serge que nous allons tout de suite revenir sur l'actualité musicale de la semaine dernière. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à vous deux, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Hasard du calendrier, le violon va être un peu notre fil rouge aujourd'hui, et ce dès le premier concert sur lequel nous allons revenir. Il y a deux semaines, nous avions reçu à Mélomanie la violoniste Marie Cantagril, avant son concert avec l'orchestre de chambre d'Ariège à la Halle au Grain le 28 octobre. Rappelons qu'il s'agissait d'un événement caritatif organisé par les Rotary Clubs de Toulouse au profit de l'ASEI, une association qui soutient entre autres des enfants et jeunes adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme. Nous avons assisté tous les deux à ce concert, Serge, qui présentait un programme au centre duquel trônaient, il faut bien le dire, les fameuses quatre saisons de Vivaldi. Quelles ont été vos impressions tout au long de cette soirée ?
Mon impression principale, ça a été l'animation, l'énergie qui a été mise pour l'exécution de ces quatre concertis pour violon, donc, et orchestre.
Oui, parce qu'il faut rappeler que ce sont concertos pour violon à la base.
Exactement, concerto parmi les plus de 200 qu'a composé Vivaldi, avec l'ironie de Stravinsky qui avait dit que Vivaldi n'avait pas composé 200 concertos, mais 200 fois le même concerto. Mais en fait, bon, c'était une sorte de jalousie de la part de Stravinsky, on peut l'imaginer. Donc l'orchestre de chambre d'Ariège était avec Marie Cantagril, c'est un orchestre qu'elle a fondé, évidemment, et on s'est aperçu que parmi les musiciens de l'orchestre, il y avait quelques musiciens des pupitres de cordes de l'Orchestre National du Capitole qui étaient venus soutenir leur...
Il y avait Sébastien Plancade, Vincent Casanafpin, Damien Louvergne à la contrebasse,
et un
autre contrebassiste aussi.
Les deux contrebassistes étaient de l'Orchestre National du Capitole. Bon, en plus, comme ça a été dit au cours de la présentation, ces quatre saisons ont été créées voici exactement 300 ans. C'est ce qui a été dit. C'était un peu un anniversaire. Donc,
c'est pas la création, je crois que c'est 1728 la création, mais c'est 1725 la partition, l'édition. L'édition
oui,
de la partition.
Oui, mais d'après ce qui a été dit, la vraie création aurait eu lieu. Les quatre saisons ont été jouées. Et ce qui est original, et je crois qu'il était une bonne idée, c'est que Marie Cantagril précédait chaque saison d'une partie au moins du sonnet correspondant, probablement écrit par Vivaldi. Et donc, il y avait une sorte de mise en œuvre des éléments particuliers, les petits bruits qui imitent les violons et les violoncelles et les altis, les aboiements de chiens, les chants d'oiseaux, etc. Et donc... C'était plein de vitalité, un grand relief, évidemment, avec des contrastes soulignés parfois presque jusqu'à la caricature, mais c'était très bienveillant tout ça, jusqu'à une petite anecdote amusante. Pour l'hiver, les musiciens ne se sont pas privés de taper des pieds, en rythme évidemment, pour se réchauffer des frimas dès la dernière des saisons. Donc, il y a eu ces quatre saisons, et puis ça a été complété par... Nouvelle vitalité et virtuosité avec les airs bohémiens, les Tzigoyna Weise, du violoniste espagnol Pablo de Sarasate, grand virtuose évidemment, œuvre basée sur des thèmes populaires roumains et hongrois, et là aussi ça a été exécuté avec une effervescence à la fois contrastée et virtuose, qui a eu énormément de succès, puisqu'il y a eu une ovation debout, carrément. Et donc, les musiciens ont offert en bis la célébrissime danse hongroise numéro 5 de Brahms. Bon, on s'y attendait presque, qui prolongeait évidemment l'atmosphère tzigane. Et puis, un deuxième bis est venu calmer un peu les déploiements virtuoses. Il s'agissait d'Oblivion d'Astor Piazzolla. Et donc, c'était une conclusion avec sérénité, en quelque sorte.
Oui, il y avait près de 1000 personnes dans la Lograin, ce qui a permis aux organisateurs de la soirée, voilà, dont le but, je le répète, était caritatif, d'atteindre leur objectif. Les airs bohémiens de Pablo de Sarasate étaient donc au programme de ce concert. C'est une des œuvres fétiches de Marie Cantagril. Elle a expliqué pourquoi c'était l'œuvre préférée de son père. Oui. Il est vrai qu'elle la joue très bien. Nous allons l'écouter dans un extrait de cette pièce. Elle est accompagnée, bien sûr, par les musiciens de l'orchestre de chambre d'Ariège. Les airs bohémiens de Pablo de Sarasate, un extrait interprété par Marie Cantagril, accompagné par l'orchestre de chambre d'Ariège, pour illustrer le programme de cette belle soirée du 28 octobre, organisée à la Lograin par les Rotary Club de Toulouse. Retour maintenant sur un autre concert de la semaine passée, celui de l'Orchestre National du Capitole, avec le violoniste allemand Frank-Peter Zimmermann, encore à la Lograin. C'était en fait un double concert, puisqu'il a été donné les jeudis 23 et vendredi 24, sous la direction du grand chef polonais Marek Janowski. Serge y est allé le jeudi, j'y suis allé personnellement le vendredi pour écouter le même programme, ça, il n'y avait pas de changement, sauf le bis, et on en reparlera. Serge va nous rappeler les œuvres que nous avons entendues. Il va surtout nous faire part de ce qu'il a pensé de la prestation de l'orchestre, du chef et du soliste de ses concerts. Je précise que la halle était archi-comble les deux soirs, mais oui, vraiment archi-comble.
Oui, oui, absolument. Eh bien, écoute, moi j'ai été ébloui par l'ensemble de ses exécutions, puisque d'une part, Frank-Peter Zimmermann est un immense violoniste. Hein. Bon, on l'avait déjà vu il n'y a pas très longtemps, en 2024, le 19 avril exactement, il était le soliste du concerto de Brahms. Et là, cette fois, il était le soliste du concerto de Beethoven, avec la direction de Marek Janowski. N'oublions pas que Marek Janowski, s'il est spécialiste du grand répertoire germanique et allemand, il connaît très bien également la musique française, disons-le, puisqu'il a quand même été directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France de 1984 à 2000. C'est quand même un sacré bail.
Et un chef très apprécié des musiciens.
Exactement, on l'a vu à la fin, aux applaudissements, j'y reviendrai. Donc, vraiment, le soliste du concerto de Beethoven a fait une entrée majestueuse de soliste, mais il a joué avant son entrée de soliste. Et pendant tout le concerto, suivant une certaine tradition que j'avoue je ne connais pas, mais j'ai entendu d'autres violonistes et vu d'autres violonistes qui le faisaient, eh bien, il joue avec l'ensemble des pupitres des premiers violons.
Oui, il joue avec les tutis.
Il s'intègre au pupitre, il joue avec le tutti. Il n'a pratiquement jamais arrêté de jouer, donc, puisque soit il était en soliste vraiment en évidence, soit il jouait au sein du pupitre des premiers violons.
Il faut dire que c'est une œuvre qu'il connaît très bien, qu'il a enregistrée je ne sais combien de fois.
Ah oui, oui,
mais
oui.
Mais on voit qu'il se régale à la jouer.
Exactement, avec pour l'Allegro malantrope initial, ce mélange d'énergie et de lyrisme incroyable. Et puis le larghetto d'une poésie mélodique, avec un chant, on a l'impression d'une voix humaine. Et puis, j'ai beaucoup aimé la transition vers le rondo final, qu'il a joué avec un tempo tout feu, tout flamme, puis une espèce d'arrivée de lumière, de grande lumière. C'était vraiment un très beau moment, ça a été magnifique. Il a eu un tel succès, évidemment, qu'il ne pouvait pas ne pas jouer de bis. Et donc, il a joué, alors apparemment un bis différent de celui qu'il a joué
oui,
le lendemain.
Oui.
Mais là, c'était une transcription hallucinante du célèbre Lied de Schubert, Erlkönig, c'est-à-dire le roi des zones. Alors, c'est une transcription qui a été, on peut dire, commise par le violoniste, altiste et compositeur morave Heinrich Wilhelm Ernst. Et il avait déjà joué ce bis lorsqu'il avait été soliste du concerto de Brahms l'année avant. Donc, quand on le voit jouer cette œuvre, on a l'impression que l'œuvre a été conçue pour un violoniste qui possède 10 doigts à la main gauche. Donc, c'est complètement hallucinant. C'est incroyable. Bon, c'était vraiment un grand moment de virtuosité.
Oui, alors le lendemain, il a joué dans un bis différent et il a pris cette peine. Il n'était pas obligé. Hein.
Oui,
et c'était un adagio d'une sonate de Bach d'une difficulté, mais terrible. Ah. Moi, j'ai discuté avec un violoniste de l'orchestre après. Il dit c'est vraiment étonnant de jouer ça en bis.
Oui, ah
c'était
oui.
Pas grand public.
Du bac,
plus, hein.
Oui,
ah
oui,
mais c'était vraiment très, très difficile. Ouais, mais bon, ouais. C'était magnifique. Hein. Il a ce son, puis cette facilité. Alors, on le voyait jouer, justement, quand il jouait avec les tutti, on voyait les petits clins d'œil, les petits sourires.
Oui,
il
oui.
S'amuse.
Oui, exactement.
Ah, lui, s'amuse,
exactement. Hein. Mais il y avait un lien très fort entre à la fois les deux musiciens, les deux invités et les musiciens de l'orchestre. Et donc, en deuxième partie, c'était la symphonie numéro 39 de Mozart, qui a quand même une connotation un peu particulière, un peu héroïque, en quelque sorte. Et donc, la solennité de son introduction à Adagio, Marek Janowski l'a souligné vraiment de manière très, très héroïque et très dynamique. Ensuite, il a dirigé l'Andante con moto avec quelques accents un peu tragiques, d'ailleurs. C'était très étonnant. Alors que le menuetto, c'était la danse dirigée là, avec sourire. Et puis, avec quelques beaux duos que j'ai remarqué, des beaux duos des pupitres devant. Il faut encore dire toute la qualité de ces pupitres, hein, la flûte, la clarinette en particulier, vraiment impeccable. Et puis le final, hein, plein d'une joyeuse vitalité. Alors, il dirige avec sobriété, mais il obtient de l'orchestre un dynamisme incroyable. Et l'accueil a été enthousiaste à la fois de la part du public et de la part des musiciens, qui vraiment, les musiciens ont remercié le chef, ont même, comme ils le font quelquefois quand ça marche vraiment très bien, ils ont refusé de se lever quand il leur a demandé de se lever, et ils ne se sont levés qu'après que le chef soit venu saluer seul, ce qu'il était un peu réticent à faire,
oui,
apparemment,
oui,
hein,
oui.
Puisque c'est quelqu'un qui a l'air très modeste, c'est quelqu'un qui a tout de même un certain âge.
86 ans. Et apparemment, il va raccrocher l'an prochain.
Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Oui.
Mais il porte encore,
il
porte beau encore.
Ah, il est incroyable. Hein. Donc, c'était vraiment une très belle soirée.
Comment ne pas réécouter le merveilleux violon de Frank-Peter Zimmermann pour conclure ce retour sur le concert qu'il a donné jeudi et vendredi avec l'Orchestre National du Capitole. Il joue ici le très beau et très célèbre troisième mouvement rondo du concerto pour violon de Beethoven. Thank you.
Le troisième mouvement rondo du concerto pour violon de Beethoven, dans une version enregistrée par Frank-Peter Zimmermann, c'était il y a quelques années. Le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole est programmé ce jeudi 30 octobre. Nous allons vous le présenter en seconde partie d'émission. Fin de ce retour arrière, petite virgule musicale, et l'on se retrouve dans quelques secondes, toujours avec Serge Chosy et Carlos Vizcaíno, notre invité d'honneur. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Pour cette rubrique agenda de Mélomanie, je retrouve donc mon ami Serge Chosy, notre invité d'honneur, l'altiste Carlos Vizcaíno, administrateur et membre de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, avec qui nous allons présenter les concerts que donne l'ensemble à cordes toulousain en novembre. Avant, je voulais prendre des nouvelles de l'orchestre, parce que nous avons appris au printemps dernier, c'était il y a quelques mois, qu'une partie importante de vos subventions, celle que vous octroie à la DRAC Occitanie, était considérablement réduite. Comment affrontez-vous cette perte dans vos financements ?
Bonjour Eric. Effectivement, malheureusement, on a perdu une grosse partie des subventions, surtout la DRAC, cette année. Donc, je ne cache pas que ça nous fait très très mal, surtout à la fin de l'année. Donc, on se tourne vers de nouveaux projets, vers de nouveaux partenaires et partenariats. Donc, voilà, on essaye de trouver plus d'activités pour combler cette perte.
Entre autres, ça veut dire essayer de faire plus de concerts ?
Essayer de faire plus de concerts, peut-être toucher un public différent, avec une sorte de classique, on va dire, pour remplir d'autres salles différentes, tout à fait.
Je vais vous demander aussi des nouvelles de Gilles Colliard, qui est toujours votre directeur artistique à ce jour. Alors, comment va-t-il ? On sait qu'il a eu gros problèmes de santé.
Avec Gilles, en fait, lui, là, malheureusement, on vient de cesser l'activité avec lui, ce mois-ci. Depuis le début octobre, là, il a eu l'incapacité de travail, donc malheureusement, il n'est plus directeur artistique de l'orchestre.
Est-ce que ça veut dire que vous allez le remplacer ou pour l'instant vous allez fonctionner
on va fonctionner un petit peu pour voir un petit peu les finances, comment on organise tout ça effectivement. Mais on va bien sûr continuer l'activité avec des autres solistes, tout à fait.
Vos concerts du mois de novembre, on en parle maintenant, et ce sont d'abord ceux que vous donnez traditionnellement chaque mois à Saint-Pierre-des-Cuisines d'une part et à l'Escale de Tournefeuille d'autre part, deux dans chaque lieu dédiés au même programme, souvent avec un ou une soliste invitée. Ce mois-ci, les concerts à Saint-Pierre-des-Cuisines se tiennent les 3 et 4 novembre, puis les 12 et 13 à l'Escale de Tournefeuille, tous à 20h30. Le programme est sous-titré Il Barocco. Alors, c'est du baroque, mais c'est du baroque italien et exclusivement italien.
Voilà, on a même choisi exprès de l'appeler Il Barocco pour faire cet hommage à la musique italienne baroque. Pour moi, c'est la plus belle musique baroque.
C'est vraiment celle à laquelle vous êtes nourri vous-même en tant qu'altiste, en tant que musicien. Ouais. Un musicien peut tourner vers les musiques anciennes tout de même, voilà. Depuis toujours.
Depuis toujours. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé la musique baroque italienne. Et là, c'est vrai que c'est un bel hommage que nous rendons.
Alors, il va y avoir aux surprises des œuvres d'Antonio Vivaldi. Ça, jusque-là, on est en terrain de connaissance. Alors, lesquels allez-vous jouer de Vivaldi?
Alors, on va jouer un concerto à la rustica, un concerto grosso. Mais après, Lina Tour, qui est actuellement à Toronto, elle viendra de Toronto parce qu'elle fait une série avec Tafel Music, là, comme violon solo. Et elle va jouer les concertos pour le monsieur Pissendel de Vivaldi. C'est un concerto magnifique.
Ça, c'est moins connu hein, du grand public.
Oui,
en effet.
En effet, oui, mais
c'est bien.
Mais c'est super, super beau. C'est vraiment un des de plus beaux concerts qu'il a fait. Pas très, très joué, malheureusement, mais c'est très, très, très beau.
Justement, c'est l'occasion.
Ouais, tout à fait. Et après, il y a les fameux concertos, le grosso mogul, qu'il va interpréter Lina.
Alors, vous parlez de Lina, vous, évidemment, vous savez qui c'est, mais nos auditeurs peut-être moins, même si elle a déjà joué avec vous à plusieurs reprises. Donc, c'est Lina Turbon. Alors, on dit Tur ou Tour ?
Lina Turbonette.
Turbonette. Lina Turbonette, grande violoniste espagnole, donc habituée des concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse depuis quelques années. Comment vous pouvez nous la présenter ? C'est une musicienne très connue de l'autre côté des Pyrénées.
Oui, 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 tout à fait. Même,
en Europe, elle joue en Allemagne.
Elle est prof à la Musikhochschule à Weimar, déjà, donc, et elle est prof aussi à la École musique de Reina Sofía à Madrid, mais elle est surtout aussi premier violon solo de Jordi Savall au Concert des Nations. Donc elle fait vraiment une belle carrière comme soliste, comme musicien, comme chambriste, comme prof. Elle est vraiment très, très, très complète comme musicienne et c'est vrai que la relation qu'on a avec l'orchestre de chambre, ça se passe super bien avec
elle. Oui, alors complète au sens où elle est à la fois une spécialiste de la musique baroque, on n'est pas premier violon du Concert des Nations, Jordi Savall,
voilà,
sans être une spécialiste de la musique baroque. Exactement. Mais aussi de la musique romantique.
Tout à fait aussi, elle a fait un CD avec Enrico Nofri, musique baroque, mais aussi sur un CD sur Bartok, elle joue la musique contemporaine. Elle est vraiment une palette de très, 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 très complète.
Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir en concert avec vous. C'est vraiment une excellente violoniste. Ouais. Il y a deux autres compositeurs au programme. Alors là, beaucoup moins connus. Il va falloir que vous nous les présentiez. Il y a Giuseppe Valentini.
Voilà. Donc ça, c'est deux
contemporains de Vivaldi.
Le contemporain de Vivaldi. Nous, on aime bien toujours présenter, bien sûr, Vivaldi, et compositeur qu'on connaît, mais aussi toujours aller un petit peu plus loin et trouver des pièces et des compositeurs pas super connus par une raison ou d'autre, ils sont pas connus, mais que la musique est vraiment exceptionnelle.
Valentini, vous allez jouer, c'est particulier, c'est un concerto pour quatre violons, alto et basse continue.
Voilà, exactement. Donc Lina fera partie de ces quatre violons, elle jouera avec trois autres violonistes de l'orchestre de chambre. Et c'est une pièce vraiment dans le style de Vivaldi, mais c'est pas du tout la même chose, c'est avec des harmonies très différentes, mais vraiment sublimes.
Donc Giuseppe Valentini, concerto pour quatre violons, et puis Giovanni Benedetto Plati,
ouais.
Jean-Benoît Plati. Là, c'est un concerto pour violoncelle.
Voilà, c'est avec un violoncelle obligato qui joue ses concertos, et ça sera Anne Gorier qui va jouer, notre violoncelliste qui va jouer ses concertos en soliste. Et pareil, on dirait un concerto de Vivaldi par le moment, mais c'est pas du tout Vivaldi, c'est Plati. Ils sont tous nourris de voilà, cette façon de faire italienne de la musique baroque.
Oui, donc c'est vraiment première moitié du 18e, c'est la fin du baroque,
voilà,
en fait.
Hein.
Et donc, ça va être la première fois que vous jouez ces deux compositeurs, Valentini et Plati?
Oui, la première fois.
Bah, des découvertes. Moi, personnellement, j'avoue ne jamais avoir entendu en concert des pièces de ces compositeurs.
Non, moi,
Serge,
non plus. Non, effectivement.
Ouais.
Bah, c'est beau. Découverte fait partie de l'aventure, là.
Exactement. Hein. Exactement. Donc, oui, il y a plein de compositeurs comme Dall'Abaco, Corelli, Torelli, etc.
Tout oui, ceux-là.
Voilà.
Dall'Abaco, oui, on a entendu pas mal.
Exactement.
L'orchestre de chambre, on a pas mal joué.
On a pas mal joué Dall'Abaco, oui. C'est très, très beau aussi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de compositeurs italiens très intéressants.
Pour donner un petit aperçu de ce programme dédié au baroque italien, je propose que nous écoutions l'Orchestre de Chambre de Toulouse dans un extrait du Concerto Grosso à la Rustica d'Antonio Vivaldi. Thank you. extrait du concerto grosso à la Rustica d'Antonio Vivaldi dans une interprétation de l'orchestre de chambre de Toulouse, dirigé ici par Gilles Colliard. C'est donc une des œuvres au programme des concerts Il Barocco avec la violoniste Lina Tourbonnet à Saint-Pierre-des-Cuisines les 3 et 4 novembre, puis à l'escale de Tournefeuille les 12 et 13 à 20h30 pour chacun d'entre eux. Il y a d'autres dates à noter sur les agendas en novembre, puisque l'orchestre de chambre se produit aussi le vendredi 7 à 20h30 à l'amphithéâtre Diagora de l'Abège. Là, vous allez donner votre programme Beatles versus Jackson. Jackson, il faut comprendre Michael Jackson. Ça, c'est un programme qui est né de votre collaboration avec le batteur Johan Henquin, membre fondateur du groupe toulousain Cat Sundries.
Donc avec Johan, oui, on a fait ce projet Cat Sundries symphonique. Et là, on a créé une amitié et ça nous a amené à faire un projet déjà à Balquin. Première, voilà, incursion à la musique pop, mélangé avec les classiques, parce qu'il y a toujours, on va dire, il y a quelques instruments électriques, mais aussi des instruments classiques de l'orchestre aussi, donc c'est un mélange un peu. Et c'est vrai que ça avait super bien marché côté public, et on a imaginé un deuxième projet un peu sur la même idée, mais un peu différent, parce qu'il y a aussi les 20 ballets, les danseurs du 20 ballets qui nous accompagnent sur ce nouveau projet que nous allons faire avec eux et avec Johan, effectivement, au Diagora bientôt.
On parlait d'arrangements tout à l'heure, mais là, ça suppose de faire des arrangements pour un ensemble à cordes comme le vôtre. Qui ouais. fait les arrangements? Ce sont les musiciens de l'orchestre?
Alors là, pour Michael Jackson, c'était un musicien qui s'appelle Navi Cavestani, qui est notre violoncelliste, très talentueux pour les arrangements.
La filière espagnole de l'orchestre de chambre.
Exactement. Exactement. Et il y a aussi Vincent Gervais, altiste, collègue. Ouais. Et
qui, oui, Vincent, je sais qu'il compose un
il
peu.
Il compose aussi, voilà, il compose.
Depuis longtemps.
Hein. Ouais, ouais. Bah, en fait, lui, il avait fait en parallèle le studio de l'Alto au Conservatoire supérieur de Lyon. Il a fait aussi la composition. Donc il est très doué aussi. Et donc heureusement qu'on a ces deux éléments dans l'orchestre. C'est super pour les arrangements.
Vous allez aller de plus en plus vers ce genre de programme. Vous parliez d'ouvrir le répertoire, voilà. De croiser éventuellement avec les musiques pop. Bah, là, on est en plein dedans et vous allez creuser le sillon.
Bah, alors, on va continuer un peu, bien sûr, en gardant notre image. Bien sûr, c'est un orchestre musique classique, baroque. Classique, voilà, tout à fait. Ça, on ne touchera pas et c'est notre identité. Mais c'est vrai qu'on voit qu'on touche un public différent qui vient au concert. Plus jeune aussi, donc pour nous c'est important aussi. Et on voit qu'on a accès à des autres salles avec une capacité beaucoup plus grande aussi.
Comme Diagora.
Comme Diagora, comme Le Bascala, par exemple, et bientôt Paris, effectivement aussi.
Alors on va parler des concerts à Paris, mais je voulais revenir sur Johan Henquin qui lui aussi s'implique complètement dans ce projet.
Oui.
Et qui est avec vous au milieu des cordes avec sa batterie.
Voilà, exactement. Bah, lui il tient vraiment à cœur à ce projet. C'est vraiment c'est une belle personne qu'on a très bien matché depuis le début. Et voilà, et il est très investi avec tout le projet qu'on fait. Et voilà, donc il prend les micros même au concert, il explique, il parle, et il est très investi.
Dimanche 16 novembre, à l'escale de Tournefeuille à 11h, ça c'est dans la série de vos concerts du marché, dit du marché, l'orchestre de chambre propose un programme sous-titré « L'art de la danse ». Alors ce sont vraiment des musiques de danse, mais là on est dans le classique, par
oui,
contre, baroque.
Oui, exactement. Donc pas forcément baroque, il y a de la musique baroque, mais aussi du Britten, du Holst.
Donc des choses beaucoup plus récentes.
Voilà, donc tout à fait. Mais c'est un hommage à toutes les danses en fait, qu'on peut retrouver dans la musique baroque, bien sûr, mais après dans les compositions romantiques, inspirées de la musique baroque.
Voilà, concert du marché, il y en a un par mois, comment ça fonctionne? Ou c'est tous les deux mois, il n'y a pas de règles?
Oui, il n'y a pas de règles, on a quatre, on va dire, dans la saison, donc entre septembre et juin, on a quatre dans l'année.
Les concerts qui sont plutôt courts, je crois que c'est une heure.
Voilà, c'est une
heure à midi.
Voilà, de 11h à midi, et voilà, c'est un concept un petit peu différent, où le public peut rentrer et sortir facilement s'il souhaite, un petit peu, voilà, c'est moins sérieux, on va dire. C'est le concert.
Alors, concert du marché, parce que les gens sont en train de faire leur marché, et puis
et voilà.
venir aller écouter de la musique avec l'orchestre de chambre.
Belle opportunité.
Exactement, oui.
Alors, les concerts à Paris, ça, je ne sais pas si c'est nouveau, vous allez nous le dire. C'est sur deux jours. C'est une mini tournée, en quelque sorte, les 22 et 23 novembre. Donc, vous vous produisez à l'Olympia, tout de même, eh oui, à la salle Gaveau et à la salle Colonne.
Voilà. Alors, donc, les 22 novembre, là, précisément, avec ces projets qui mélangent électrique et acoustique, on a été engagé pour dans un cycle qui s'appelle Les Clashs de la salle Gaveau. Avec le concert de Parcella Abba, l'on appelait comme ça, donc la première partie acoustique et classique. Donc il y aura du Handel, Parcell, qui est des compositeurs, c'est un hommage à la musique anglaise. Handel, Parcell, Britten, Elgar. Et après la deuxième partie, par contre, voilà, un changement de plateau et Abba, Queen, Beatles, etc. Et ça, c'est à Salgavo, le 22 novembre.
22 novembre, Salgavo. Et à l'Olympia.
Et à l'Olympia, c'est le lendemain. Pour le 22 novembre, là, il y aura Johan, il y aura aussi Manon Galli comme invité. Et c'est Lina Tour qui fait la direction et le violon solo pour ce concert. Et après, le 23, il y aura un quintet de musiciens de l'orchestre, qui est les filles, qui accompagneront Esther Abrami, la violoniste. Donc ça se passe à l'Olympia à 19h.
Bon, bah c'est, je trouve, une belle promotion pour l'Orchestre de Chambre de Toulouse de jouer dans des salles aussi précises à Paris. Oui. Hein.
Bon, tout à fait. C'est... Et après, il y a aussi la salle Colonne en parallèle aussi. Et on fait la présentation de notre dernier CD avec Rose Nagar, qui avait participé au Théâtre du Capitole. Voilà, donc c'est un week-end très, très, très rempli et très intense pour nous, mais effectivement très, très important.
Retour à Toulouse vendredi 28 novembre. Vous donnez un concert à 21h à l'amphithéâtre de l'hôtel Palladia. Et en fait, il y a une saison musicale à l'hôtel Palladia, mais c'est vous qui la proposez. Hein. C'est
voilà,
votre
c'est
saison.
Ça. Exactement. On a un concert de concert voilà, cette année, je crois, qu'on donne là-bas parce qu'on a un joli amphithéâtre. Et...
Qui peut accueillir combien de personnes?
Je pense que de mémoire, on doit être autour de 350 personnes.
Ah oui, donc c'est facile, vraiment une belle salle.
Ouais. Oui. Et voilà, donc c'est un joli endroit oui, pour venir écouter la musique.
Et là, le programme que vous proposez le 28 novembre est sous-titré « Le tango et l'amour ». Vous y avez invité un excellent accordéoniste toulousain, Grégory Daltin, qui enseigne au Conservatoire de Toulouse d'ailleurs. Est-ce que c'est la première fois que vous collaborez avec lui?
On avait fait notre projet avec Omar Hassan et Greg il y a quelques années, qui s'appelait Café Tango. Mais depuis, on avait un projet avec lui, mais que c'était malheureusement avec, à cause du Covid.
Ça a été différé. Enfin,
voilà. Et du coup, là, c'est un nouveau projet qu'on a imaginé avec lui, et effectivement, le tango l'amour, parce que je voulais aussi imaginer un petit hommage à Carlos Gardel.
Toulouse, oui, Toulouse, bien sûr.
Voilà, mais il y aura aussi du Piazzolla et Galliano aussi, et même une pièce de Greg aussi.
Oui, parce qu'il compose aussi.
Il compose aussi, tout à fait. Il compose très bien aussi.
Non, c'est vraiment un très, très, très bon musicien.
Il est très habitué à jouer avec des ensembles classiques. Hein,
oui,
donc,
oui.
Il s'intègre parfaitement.
Parfaitement,
hein, vraiment.
Ouais.
Dans tous les styles.
Exactement.
Hein.
Exactement.
C'est un grand musicien.
Bah, c'est la marque des grands musiciens.
Ah oui.
Et c'en est un.
Oui, tout à fait.
Il est à Toulouse. Encore un. Bon, voilà pour ce mois de novembre, ma foi, très chargé pour vous.
Voilà, exactement. Et on finit le mois avec une tournée en Espagne.
Ah, vous, vous allez en Espagne, à la toute fin du mois.
À toute fin du mois.
Dans quelle ville?
On va au théâtre de Ourense, en Galicia, et à la ville de Zamora aussi. Donc, voilà.
Je parlais de la filière espagnole, mais c'est,
oui.
Non, mais c'est un orchestre qui est vraiment des deux côtés des Pyrénées, qui,
ouais.
mais c'est quand même l'orchestre de chambre de Toulouse.
Exactement.
Bon, on sait que Toulouse est un peu une ville espagnole. Hein. On a fait le tour des nombreux concerts donnés par l'Orchestre de Chambre de Toulouse en novembre. Il nous reste encore trois concerts à annoncer dans cette émission, ceux qui sont dans l'agenda des jours à venir. Nous commençons avec le prochain rendez-vous de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains. J'ai annoncé en début d'émission ce jeudi 30 novembre à 20h. Il devait être dirigé par Tarmo Peltokoski. On sait malheureusement que le jeune chef finlandais est souffrant et qu'il a dû annuler tous ses concerts jusqu'à début décembre. Jeudi, il est remplacé par Frank Berman, chef allemand qu'on connaît bien maintenant à Toulouse. Mais nous avons appris aussi hier qu'il y a un autre remplacement pour ce concert, Serge. Le concert de soliste invité.
Exactement. Le pianiste qui devait... jouer donc le concerto pour piano numéro 1 de Brahms ne pourra pas être là et donc il sera remplacé par quelqu'un que l'on connaît bien qui est dans Laloum et qui en plus est un grand spécialiste de Brahms dans Laloum qui a déjà d'ailleurs joué avec Frank Berman, c'était en octobre 24
Mozart.
Et c'était le 24e concerto de Mozart. Alors, on regrette qu'Anton Mejías, qui était prévu, finno-cubain, donc...
Oui, mais camarade de promotion quasiment
De Tarmo
Peltokoski. De Tarmo Peltokoski au conservatoire d'Helsinki, conservatoire Sibelius, que j'ai entendu pour ma part à Piano Jacobin, pas cette année, l'année d'avant. Très, très bon pianiste.
Absolument, oui.
Bon, on ne perd pas au change, évidemment, avec Adam Laloum, hein, mais on aurait été curieux de l'entendre, quand même, Anton Mejías.
Oui, oui.
Je pense qu'on aura d'autres occasions de l'entendre, forcément.
On l'entendra de nouveau, oui.
Bon, Adam Laloum, il a enregistré le concerto numéro 1 de Brahms, donc c'est
plus,
une œuvre qu'il connaît
il
très
a enregistré
bien.
Presque une intégrale des pièces pour piano seul.
Sur le répertoire germanique, c'est
Ah
c'est
oui,
vraiment,
non, mais c'était excellent.
Là donc. Où il se... s'épanouit le mieux, en tout cas aujourd'hui, à ce jour.
Oui, exactement. Alors, je voudrais rappeler qu'Anton Mejías avait accompagné Mathias Goerne dans le voyage d'hiver.
Oui, exact.
En remplaçant l'accompagnateur habituel qui n'avait pas pu se déplacer pour avec Mathias Gunn, et ça avait eu un succès extraordinaire. Donc, bon, on le reverra, mais là, on est vraiment très heureux d'entendre Adam Laloum, qui jouera en première partie, donc, la partie soliste de ce concerto de Brahms, le numéro 1. Et en deuxième partie, un grand événement qui avait été, donc, imaginé par Tarmo Peltokoski.
Et voulu par Tarmo Peltokoski.
Et oui, et qui est la symphonie numéro 7, Antarctica, de Ralph Vaughan Williams, puisqu'il veut absolument jouer, diriger et même enregistrer l'ensemble des 9 symphonies de ce compositeur britannique, hein, qui n'est pas très souvent joué. Là, on aura donc, sous la direction de Frank Berman, cette symphonie, une œuvre de commande, en fait, pour un film, hein, à l'origine, l'épopée du Capitaine Scott, qui est sortie en 1948. Vaughan Williams a prolongé cette musique de film pour en faire une grande symphonie pour très grand orchestre avec un chœur de femmes et une soliste soprano. Donc nous aurons droit au chœur d'État de Lettonie, Latvia, dirigé par Maris Sirmais, qui se joindra à l'orchestre. Donc c'est une belle découverte à laquelle on peut s'attendre.
C'est une première à Logan.
Ah oui, oui, tout à fait, hein. oui, absolument. Voilà, on aura droit à cette création illoco de la symphonie numéro 7, Antarctica, de Ralph Vaughan Williams.
Je rappelais tout à l'heure qu'Adam Laloum est un grand spécialiste du répertoire romantique germanique. On connaît sa passion pour Schubert et son amour pour Schumann et Brahms. Il a enregistré il y a quelques années le concerto numéro 1 de Johannes Brahms, qui nous permet de vous le faire entendre dans cette émission. Le pianiste toulousain joue ici le deuxième mouvement Rondo Allegro non troppo. Le deuxième mouvement, Rondo Allegro non troppo, du concerto pour piano numéro 1 de Brahms, dans une version enregistrée par Adam Laloum. Le pianiste toulousain joue cette œuvre ce jeudi 30 octobre à 20h, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Frank Berman. Une autre grande formation d'Avril Rose est en concert ce même jeudi 30 et le vendredi 31 octobre, le Toulouse Wind Orchestra, pour 2 concerts à Saint-Pierre-des-Cuisines, donnés chaque soir à 20h30. L'orchestre va y fêter ses 10 ans d'existence, Serge.
Et oui, donc c'est un orchestre qui a une belle réputation, parfaitement méritée. Il fête ses 10 ans donc en 2025. Les concerts qu'il donne sont des concerts pour soutenir Roxane, qui est la fille du co-directeur Jean-Élie
Tecari.
Voilà, qui est atteinte d'une grave maladie. Et donc les bénéfices seront reversés à une association qui la soutient. Donc c'est important. Et au programme, il y a donc la symphonie numéro 3 de James Barnes et Toulouse Wind Orchestra et Nicolas Gardel, donc, et avec un arrangement pour trompette, et le tout sous la direction d'Adrien Ramon, donc, qui dirige le TWO.
Oui, donc, on dit TWO, effectivement. James Barnes, ils avaient déjà enregistré, il y a quelques années, sa Symphonic Overture.
Oui.
Qu'on peut donc trouver d'ailleurs sur Internet, qui est un morceau magnifique. Et je sais que James Bartz, en l'écoutant, avait trouvé ça tellement formidable qu'il a envoyé un petit mot pour dire qu'il n'avait jamais entendu sa symphonique ouverture dans une version comme celle-ci.
Ah bon ?
Voilà, donc il y a des liens avec ce compositeur américain qui est toujours bien vivant, hein, né en 1949, qui a beaucoup composé pour des orchestres à vent et cuivre. Et donc Nicolas Gardel, lui, bon, il est bien connu dans le milieu du jazz, un trompettiste de jazz qui a été formé au CRR de Toulouse. Je crois qu'il est d'origine ariégeoise et qu'on voit beaucoup dans les festivals du coin, que ce soit Festival du Comminges, Festival de Foix et aussi à Marciac. Donc ça va être deux très très belles soirées, à chaque fois à 20h30 donc. Et bon, il y a une cause caritative importante derrière. Ouais. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble cette symphonie numéro 3 tragique, parce que le sous-titre, c'est tragique, c'est La Tragique de James Barnes. En voici un extrait, c'est le 4e mouvement, Allegro Giocoso. Le 4e mouvement Allegro Giocoso de la symphonie numéro 3 tragique de James Barnes, l'unique œuvre au programme des concerts que donne le Toulouse Wind Orchestra avec le trompettiste Nicolas Gardel les jeudis 30 et vendredi 31 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines pour fêter les 10 ans de la création de l'orchestre. Il reste un concert à vous annoncer, celui du cycle des grands interprètes, lundi 3 novembre à 20h à la Halle aux Grains. C'est la 40e saison des Grands Interprètes, et oui. Encore un anniversaire. Et pour célébrer ce cap symbolique, il y a des rendez-vous toujours plus prestigieux. Tout au long de l'année, vous allez voir, il n'y a vraiment que des grands noms, que des grands orchestres, que des grands chefs, que des grands solistes. Celui du 3 novembre en est la parfaite illustration, puisque l'on va y entendre le Tokyo Philharmonic Orchestra sous la direction de Myung Woon Chung et cet immense violoniste qui est Maxime Vengerov. Très, très grande affiche, Serge.
Ah, tout à fait. Alors, il faut rappeler tout de même que c'est en 2011 que cet orchestre philharmonique de Tokyo a célébré son 100e anniversaire en tant que premier orchestre symphonique du Japon. Et que l'orchestre a nommé Myung Woon Chung, qui le dirige quand même depuis 2001, il l'a nommé directeur musical honoraire. Donc, ils viennent en parfaite unité, en parfaite connaissance.
Parce que lui, il est sud-coréen. Hein.
Exactement, oui, oui. Ce TPO, donc, donne des séries de concerts dans le monde entier. Et donc, avec Myung Woon Chung, il se trouve évidemment en pays de connaissance. On connaît bien Myung Woon Chung à Toulouse.
Oui, hein. On le voit quasiment tous
il
les ans.
Il vient assez souvent.
Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Exactement.
Ou d'autres formations.
C'est vraiment un grand chef, on est tout heureux de le retrouver. Alors que Maxime Vengerov...
Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu.
Il y a assez longtemps qu'il n'est pas venu à Toulouse. Il faut rappeler que c'était un enfant prodige de l'Archer, qu'il a été nommé ambassadeur de l'UNICEF, qui mène des actions en plus humanitaires. Hein. C'est vraiment une belle personne, hein, en plus d'être un grand musicien.
Oui, et puis il dirige aussi. Hein,
ah, il dirige. Hein,
il a eu des problèmes d'épaule à un moment donné qu'il avait obligé à mettre sa carrière entre parenthèses, mais assez longuement.
Voilà.
Et là, il s'était mis à diriger les orchestres.
Et c'est un immense musicien, évidemment, et qui aborde, outre le grand répertoire romantique sur son Stradivarius Kreutzer, le répertoire ancien sur violon baroque, il le joue aussi.
Oui, oui.
Donc, il multiplie les facettes de ses talents de musicien, et donc, il se lance, comme vous l'avez dit, dans la direction d'orchestre et l'improvisation. C'est vraiment un grand musicien qui sera le soliste du concerto pour violon et orchestre en ré majeur de Tchaïkovski, l'un des plus célèbres,
oui.
Évidemment, concerto pour violon.
Encore un unique concerto pour un grand compositeur. Ouais. Souvent, les concertos pour violon, il y en a un pour les grands compositeurs.
Oui,
c'est
oui.
Étrange.
Brahms, Beethoven, Tchaïkovski. Ouais, ouais.
Grieg, il y en a d'autres. Hein.
Oui, oh, il y en a d'autres, oui. Donc là, je crois que c'est un événement à ne pas manquer d'entendre Vengerov dans ce concerto. Et puis l'orchestre, sous la direction de Myung Woon Chung, offrira ensuite une sélection des suites 1 et 2 du ballet de Prokofiev, le plus célèbre, Roméo et Juliette, oui. Avec les thèmes que l'on connaît très bien, qui ont été galvaudés, certains,
oui, dans
la
publicité.
Ça, c'est peut-être un peu regrettable. Mais bon, ça permet au public qui n'est pas habitué
d'avoir les airs en tête.
Voilà, de se retrouver en terrain connu.
Programme russe, très bon programme russe.
Très bon programme qui constitue l'ouverture de saison, de la saison des grands interprètes, puisque le premier concert qui aurait dû être donné a dû être annulé par la défection du principal interprète.
La véritable ouverture donc a lieu ce lundi 3 novembre. Voici le début du premier mouvement Allegro Moderato du concerto pour violon de Tchaïkovski dans une version dont le soliste est Maxime Vengerov.
Thank you.
Le premier mouvement Allegro Moderato du concerto pour violon de Tchaïkovski, une version avec Maxime Vengerov qui joue donc cette œuvre lundi 3 novembre à 20h à la Halle au Grain, accompagné par le Tokyo Philharmonic Orchestra dirigé par Myung Moon Chung, à l'invitation du cycle des grands interprètes. Des extraits des suites tirées du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev sont également au programme et la billetterie est en ligne à l'adresse www.grandsinterprètes.com. Je rappelle que l'Orchestre de Chambre de Toulouse est en concert avec la violoniste Lina Tour-Bonnette les 3 et 4 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines et les 12 et 13 à l'escale de Tournefeuille, à chaque fois à 20h30. Le programme est intitulé Il Barocco. Les places sont à acheter et réservées sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. L'Orchestre National du Capitole est lui en concert le jeudi 30 octobre à 20h à la Halle au Grain avec le pianiste Adam Laloum qui va jouer le premier concerto de Brahms. La billetterie est en ligne à l'adresse www.onct.toulouse.fr. Et puis je rappelle enfin que le Toulouse Wind Orchestra fête ses 10 ans d'existence les jeudis 30 et vendredi 31 octobre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Vous pouvez acheter vos billets sur le site www.toulousewindorchestra.com. Grand merci à Carlos Vizcaino, notre invité d'honneur, et à Serge Chevy qui a co-animé cette émission avec moi. Merci aussi à Francky Guéret, à la régie technique. Le podcast est téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence, comme d'habitude. Et merci bien sûr à tous les fidèles auditeurs de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.